Manuscrit 207. Manuscrit sollicité pour des livres et articles. Mon très respecté frère dans le Seigneur, je suis affligé d'apprendre votre malheur. Vous avez la promesse de l'Éternel. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'ai la meilleure preuve que Dieu vous aime. Il ne vous rejettera pas dans votre faiblesse, car il vous aime. Ne craignez pas d'être loin de Jésus, mais reposez-vous simplement dans la quiétude paisible de son amour. Profitant de votre état de faiblesse, l'ennemi peut essayer de vous chuchoter que le Seigneur ne vous aime pas. Les nuages peuvent vous paraître sombres parfois, mais quand ils sont remplis de la lumière éclatante de Jésus, ils deviennent brillants comme l'or, car la gloire de Dieu repose sur eux. Je pense qu'il ne serait pas sage de mettre un éteignoir sur son naturel joyeux et heureux. La religion de la Bible, ne rend jamais une personne triste et sombre. L'hôtesse lui a dit « Si je pouvais, je serais chrétienne, mais je ne peux pas. Ce serait impossible de servir Dieu sur un tel bateau. Vous ne savez pas, vous n'avez pas idée de la méchanceté de ces marins. J'espère parfois qu'une place se libère pour moi afin que je puisse subvenir aux besoins de ma famille. Alors je prêterai attention aux choses sérieuses. » Le marin a dit « J'ai l'impression que ce bateau sombrera bientôt corps et biens. Je me sens si durement exploité que, si je le peux, je ne resterai pas sur ce bateau. Quand je vois, sur ce bateau, un tel mépris pour Dieu et pour tout ce qui est sérieux, je me pose la question. Que peut-on faire ? Mon cœur saigne. » Le marin faisait partie des rescapés. L'hôtesse figurait dans la liste des disparus. Ici, on peut cultiver de la luzerne. Là, on peut mettre des fraises. Ici, du maïs doux et du maïs commun, et ce seul-ci donnera de bonnes pommes de terre, alors que celui-là donnera toutes sortes de bons fruits. Ainsi, dans mon imagination, tout est florissant. Le verger est maintenant la chose principale. Nous ferons de notre mieux, et si nous commettons quelques erreurs, nous ferons mieux la prochaine fois. Je conduis mon propre attelage de 2 chevaux. Je visite la scierie, et je commande le bois de charpente demandé par les ouvriers, et je sors chercher les vaches. J'ai acheté 2 belles vaches. Presque partout dans les colonies, ils ont l'étrange coutume d'enfermer les vaches au moment de la traite. Ils mettent la tête de l'animal dans un carcan, puis ils attachent une de ses pattes à un pieu. C'est une pratique barbare. J'ai dit à ceux à qui j'ai acheté mes vaches qu'ils ne devaient pas faire cela, qu'ils devaient laisser l'animal libre et lui apprendre à se tenir tranquille. Le propriétaire m'a regardé avec étonnement. « Je ne peux pas faire ça, Madame White, » a-t-il dit. « Elles ne resteront pas en place. » Personne n'a jamais pensé faire autrement. « Eh bien, » ai-je répondu, « je vous donnerai un exemple de ce qui peut être fait. Je n'ai pas mis de corde aux pattes de mes vaches ou mis leur tête dans un carcan. Nous avons traité nos vaches avec douceur et elles sont parfaitement dociles. Je ne propose pas de parler de tous les ennuis et difficultés qui surviennent constamment. Si nous pouvons avoir du grillage comme celui des portes grillagées, nous pouvons utiliser une caisse de marchandises qui résistera même mieux qu'un coffre-fort. Le grillage laisse passer l'air et la nourriture sera hors de portée des opossums. On doit faire plus pour protéger la cuisine des animaux qui rôdent. Je vois si peu de tact et d'ingéniosité. Je ne peux pas supporter d'être enfermé comme cela. Je dois avoir la possibilité de respirer sans être exposé aux animaux autour. 10 février. Je me suis levé à 4h30 du matin. À 5h, j'étais en train de bêcher et de me préparer à disposer mes fleurs. J'ai travaillé seul pendant 1 heure, puis Edith Ward et Ella May White se sont jointes à moi et nous avons planté nos fleurs. Puis nous avons mis 28 plants de tomates et la cloche a sonné pour la prière du matin et le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, j'ai lu un manuscrit. Les sols sont prêts à recevoir les légumes, pommes de terre, haricots, petits pois et autres. Mardi matin, je me suis levé à 3h30 et j'ai écrit à nouveau dans mon journal. J'ai travaillé un peu dans le verger, attachant les arbres à leur tuteur. Une touffe d'herbe est placée entre le pieu et l'arbre pour que l'arbre ne soit pas abîmé. À 5h, Willy et moi sommes descendus dans notre jardin, qui est à quelque distance de la maison, et nous avons planté des petits pois. Nous avons travaillé jusqu'à 7h, et nous nous sommes préparés pour notre prière familiale du matin et pour le petit déjeuner. Je me suis senti trop fatigué pour continuer à travailler à l'extérieur. Nous avons prévu de faire beaucoup de choses sur notre terrain. Nous avons décidé d'aller le plus loin possible en train et, au nom du Seigneur, de faire notre part pour nous rendre à la Réunion, car nous pensions que c'était là notre devoir. Cela ne serait pas du tout en accord avec mon travail. Le pasteur Corliss a dit « Frère Laurence, quand la sœur White prend la décision de faire quelque chose, elle le fait. » Un voisin a proposé de nous emmener. Nous avons alors dit que nous venions et les bagages ont été placés dans le cabriolet à deux roues et le bagage principal, la sœur Rousseau, la sœur Maud Camp et Mel Essay, se sont entassés au milieu des bagages, trois malles, des paniers, un étui de télescope, des sacs et des paquets. Le frère Laurence était assis sur une malle et les femmes sur les malles à l'arrière, toutes enveloppées dans des châles et des couvertures et avec trois parapluies. Vous voyez le tableau. Le trajet s'est déroulé sans problème, mais l'arrimage était rudimentaire. Des cordes en guise de câble, du fil de fer en guise de lanière, et tout dans le même style. Mais le transport s'est fait sans problème. Nous avons fait le trajet jusqu'à la gare. C'est lorsque je suis arrivé sous l'abri de la place de la gare que la pluie a redoublé d'intensité. J'ai alors essayé d'enlever mon bricolage, un imperméable d'homme attaché par les boutonnières avec des ficelles. Ainsi, j'étais protégé. Sur la tête, je n'avais pas de chapeau, mais un petit châle. Mon chapeau était en sûreté avec la sœur Rousseau et Maud dans une boîte à chapeau en métal. J'ai eu de la peine à me reconnaître dans cet accoutrement, mais j'étais reconnaissante à mon Père Céleste d'être arrivée aussi loin sur le chemin de la maison. Nous étions bientôt dans le train et nous sommes arrivés à Granville sans encombre. Nous avons senti que nous étions sous la protection de notre Père Céleste. Nous avons vu des cours d'eau en crue, des rivières montant presque au niveau des ponts et des routes, mais nous étions tous en sécurité et à l'aise. Nous avons mis pas moins de 300 litres en conserve et pas moins de 100 litres supplémentaires seront bientôt mis en conserve. Si je continue à tenir un hôtel gratuit, je dois faire des provisions. Émilie a mis en conserve 56 kilos d'abricots aujourd'hui et nous avons encore 12 caisses à mettre en conserve. Nous avons eu, pendant tout le temps de notre déménagement, la compagnie d'un personnage important que nous avons reçu avec joie. Nous avons eu 14 et 15 personnes à notre table. Cuisiner pour ces personnes et les recevoir a rendu le déménagement beaucoup plus difficile. Est un homme trop brutal pour s'occuper du bétail. J'aurais préféré avoir un homme plus doux pour garder mes animaux. J'économiserai sur les vêtements. Je ne dépenserai pas un shilling inutilement. Hier a été le jour le plus dur que j'ai vécu depuis longtemps, à cause de l'expédition du courrier américain. Je me suis senti si fatigué, mais je suis heureuse que ce soit fait. Après cela, le pasteur Daniels a pris l'attelage et nous sommes tous montés à la cascade. Le paysage était grandiose. Je me suis, bien sûr, assise dans mon chariot, tandis que mes trois camarades ont gravi la pente abrupte pour voir la seconde cascade. Hier, nous sommes allés dans la montagne et avons mangé sous un arbre. Le paysage était grandiose. J'ai beaucoup apprécié. Nous sommes allés à la plage, Émilie, May et moi. Bien sûr, je n'étais pas capable de me déplacer, mais je me suis assise dans le phaéton sous le pont ou quai qui s'avance assez loin vers l'eau. Nous avons mangé là. C'était agréable. Nous sommes allés au bord de la rivière et avons fait un petit pique-nique. Nous avons passé un moment très agréable, ramassé beaucoup d'oseille, puis nous sommes rentrés. Je veux faire exactement ce que le maître veut que je fasse. Je veux connaître la volonté de Dieu et la faire. Je veux que tout ce que j'ai et suis soit utilisé pour la cause de Dieu et pour glorifier son nom. Hier, lundi, a été une journée agréable. Byron, Sarah et moi sommes allés à Sydney. Le Christ a dit « Vous aurez toujours des pauvres avec vous » et c'est notre expérience. Nous avons acheté du riz et des petits pois et ce stock a été réservé pour nourrir les malheureux. Nous avons rendu visite à la sœur et lui avons apporté un peu de ce que nous avions et 12 mètres de molleton. Nous avons maintenant un stock de vêtements pour plusieurs familles dans le besoin. Nous avons fait nos échanges et sommes rentrés à la maison un peu après la tombée de la nuit. Cette sortie m'a fait du bien. J'ai envoyé des provisions pour la famille du frère. Il n'arrive pas à trouver un emploi, seulement un petit job de temps en temps. Il manque de nourriture et de vêtements. Il reste courageux dans le Seigneur, mais il y a de nombreuses familles indigentes et cela me fait mal au cœur. Je ne veux pas faire de réserve, et avec l'aide de Dieu, ceux qui ont adhéré à la vérité et aiment Dieu et gardent ses commandements ne seront pas affamés et nus si j'en suis informé. Sands, Virginie, jeudi 6 novembre 1890. Nous sommes entrés dans un bâtiment, et pour 1 dollar chacun, on nous a fourni un guide, et j'ai été étonné de ce que mes yeux ont vu. Donner une description de cette scène est tout simplement impossible. C'était merveilleux, trop merveilleux pour être décrit. Nous avons passé 1 heure et demie avec des lampes électriques et des lanternes, ou un récipient avec 3 chandelles. Nous sommes rentrés à Sands, notre lieu de villégiature, tout en mangeant. La route était mauvaise, mais nous avons beaucoup apprécié la sortie. La journée a été douce, le soleil a brillé et le paysage était beau. J'ai été heureuse d'avoir eu le privilège de faire cette promenade. Cela nous a fait du bien. Mon mari, le pasteur Joseph Bates, le frère Pierce, le pasteur Edson, un homme clairvoyant, noble et sincère, et bien d'autres, dont je ne peux me rappeler les noms maintenant, étaient parmi ceux qui, après que le moment soit passé, en 1844, cherchaient la vérité. Lors de nos importantes réunions, ces hommes se réunissaient pour chercher la vérité comme un trésor caché. Je les ai rencontrés et nous avons étudié et prié avec ferveur, car nous pensions devoir apprendre la vérité de Dieu. Souvent, nous restions ensemble tard dans la nuit, et parfois toute la nuit, priant pour obtenir la lumière et étudiant la parole. Alors que nous jeûnions et prions, une grande puissance venait sur nous. Mais je ne réussissais pas à suivre les raisonnements des frères. Mon esprit paraissait fermé, de sorte que j'étais incapable de comprendre la signification des passages étudiés. Alors, l'Esprit de Dieu descendait sur moi, et j'entrais en vision. Les passages que nous examinions m'étaient expliqués clairement, et je recevais une instruction concernant la position que nous devions prendre à propos de la vérité et du devoir. Une chaîne de vérité, s'étendant de notre époque à celle où nous entrerons dans la cité de Dieu, m'a été clairement révélée, et j'ai communiqué à mes frères et sœurs les instructions que le Seigneur m'avait données. Ils savaient que j'étais incapable de comprendre ces sujets sans une vision, et ils acceptaient comme une lumière venant du ciel les révélations qui m'avaient été données. Les points principaux de notre foi, tels que nous les avons aujourd'hui, ont été fermement établis. Chaque point a été clairement défini, et tous les frères sont parvenus à l'harmonie. Tout le groupe des croyants était uni dans la vérité. Certains étaient venus avec d'étranges doctrines, mais nous n'avons jamais eu peur de les rencontrer. Notre expérience était merveilleusement établie par la révélation du Saint-Esprit. Pendant 2 ou 3 ans, mon esprit est resté fermé à la compréhension des Écritures. En 1846, je me suis marié avec le pasteur James White. C'est quelque temps après la naissance de mon 2e fils que nous avons été dans une grande perplexité concernant certains points de doctrine. J'ai demandé au Seigneur d'ouvrir mon esprit pour que je puisse comprendre sa parole. Soudain, il m'a semblé être enveloppé d'une lumière claire et belle, et depuis, les Écritures ont été pour moi comme un livre ouvert. J'étais à cette époque, début décembre 1850, à Paris, dans le Maine. Le vieux père Andrews était très malade. Depuis quelque temps, il souffrait beaucoup de rhumatismes inflammatoires. Il ne pouvait pas faire un mouvement sans ressentir une douleur intense. Nous avons prié pour lui. J'ai posé mes mains sur sa tête et lui ai dit « Père Andrews, le Seigneur Jésus vous guérit ». Il a été instantanément guéri. Il s'est levé, s'est promené dans la chambre en louant Dieu et a dit « Je n'ai jamais vu chose pareille. Des anges se trouvent dans cette chambre. » Depuis ce moment-là et jusqu'à présent, j'ai pu comprendre la parole de Dieu. Si tous ceux qui abordent la parole de Dieu en prenant soin des gens purifient leur cœur de toute iniquité et de toute souillure et viennent à Dieu avec des pensées pures, comme les petits-enfants, ils verront le salut de Dieu. Jésus marchera au milieu de nous. Nous sommes maintenant invités par la miséricorde à devenir des vases d'un usage noble et à ne pas nous soucier de la pluie de l'arrière-saison. Tout ce que nous devons faire est de maintenir le vase pur, debout, est prête à recevoir la pluie du ciel et de continuer à prier. Que la pluie de l'arrière-saison vienne dans mon vase, que la lumière de l'ange glorieux qui s'unit au 3e ange m'illumine. Donne-moi une part dans le travail. Permets-moi de faire retentir la proclamation et d'être un collaborateur de Jésus-Christ. » Donc lorsque vous le cherchez, permettez-moi de vous le dire, Dieu vous rend apte tout le temps en vous accordant sa grâce. Vous ne devez pas vous inquiéter et penser que viendra un moment où vous serez crucifié. Le temps pour être crucifié, c'est maintenant. Chaque jour, à chaque heure, le moi doit mourir, et puis, quand viendra le moment pour le peuple de Dieu d'être testé pour de bon, les bras de Dieu vous entoureront. Les anges de Dieu feront un mur de feu tout autour et vous délivreront. Alors la crucifixion de votre moi ne servira plus à rien. Cela doit être fait avant que le sort des âmes ne soit décidé. C'est maintenant que le moi doit être crucifié, quand il y a du travail à faire, quand on doit utiliser chacune des capacités qui nous ont été confiées. C'est maintenant que vous devez vider et purifier soigneusement votre vase de son impureté. C'est maintenant que nous devons nous consacrer à Dieu. C'est notre tâche en ce moment même. Vous ne devez pas attendre un moment particulier pour faire ce travail merveilleux. C'est aujourd'hui même qu'il faut le faire. Je me donne à Dieu aujourd'hui. 27 janvier 1890. Recevoir les messages de l'Esprit de Dieu. J'ai rendu mon témoignage à l'Assemblée des pasteurs et le Seigneur m'a donné une large mesure de son esprit. J'ai supplié mes frères qui occupent des postes à responsabilité de ne pas attrister l'Esprit de Dieu en éloignant leur cœur par leur refus de recevoir les témoignages de réprobation et d'avertissement envoyés par Dieu. J'ai vu qu'ils déshonoraient Dieu dans beaucoup de leurs propos. Leur cœur n'était pas exempt de préjugés. Je leur ai dit « N'acceptez pas la parole de n'importe quelle personne, mais allez vérifier vous-même dans les Écritures. Ne vous détournez pas des messages envoyés par Dieu, comme vous l'avez fait à Minneapolis. Par la prière, considérez chaque point avec des cœurs ouverts à la conviction. Recevez tout rayon de lumière qui vous est envoyé. Ce qui vous a été présenté mérite d'être considéré avec honnêteté. Les vérités qui ont été enfouies sous un tas d'inepties doivent être réhabilitées et rétablies dans leur cadre originel. 28 janvier. Un fidèle témoin. J'ai assisté à l'Assemblée des pasteurs et j'ai lu un document important que j'avais lu à Minneapolis. J'ai apporté mon témoignage fidèlement et je peux dire comme Moïse dans son discours d'adieu, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. La vie éternelle est le don gratuit de Dieu pour tous ceux qui l'accepteront patiemment et humblement comme tel et observeront la loi de Dieu. On parle beaucoup de croyance. On préfère avoir un esprit plein de préjugés, qui ne cherche pas à bien comprendre, mais travaille sous couvert. Les hommes ne chercheront pas avec impartialité. Ils ne désirent pas savoir ce qu'est la vérité. Ils pensent que parce que certaines idées ont longtemps été considérées comme des vérités, elles sont la vérité. 29 janvier. Incompréhension intentionnelle. Je suis retourné à l'Assemblée des pasteurs et j'ai lu un article important en faisant quelques remarques. Les leçons du Christ ont été souvent mal comprises, non pas parce qu'il ne les avait pas rendues simples, mais parce que l'esprit des Juifs, comme l'esprit de beaucoup qui prétendent croire à notre époque, était rempli de préjugés. Parce que le Christ n'a pas pris parti pour les scribes et les pharisiens, ceux-ci l'ont haï, se sont opposés à lui et ont cherché à contrecarrer ses efforts et à annuler l'effet de ses paroles. Pourquoi les hommes ne verront-ils pas et ne vivront-ils pas la vérité ? Beaucoup étudient les Écritures dans le but de prouver que leurs idées personnelles sont justes. Ils changent le sens de la parole de Dieu pour l'adapter à leurs propres opinions. Et ils le font aussi avec les témoignages qu'il envoie. Ils citent la moitié d'une phrase, laissant de côté l'autre moitié, qui, si elle était citée, montrerait que leur raisonnement est faux. Dieu est en procès avec ceux qui tordent les Écritures pour les rendre conformes à leurs idées préconçues. 30 janvier. Le danger de résister à la lumière. Mon esprit est continuellement inquiet. J'ai beaucoup de tristesse dans le cœur. Je sais que Satan cherche à prendre le contrôle des hommes. Je quitterai avec joie le champ de bataille, mais je me tiendrai à mon poste tant que le Seigneur l'exigera. Je ne fuirai pas à cause de la pression exercée sur moi. J'ai été placé ici et ma mission est de présenter clairement les instructions qu'il m'a données. 3 février. Nos besoins. J'ai parlé à l'Assemblée des pasteurs. Le Seigneur m'a donné la force d'apporter mon message avec puissance et clarté. Nous avons tant besoin d'une piété plus profonde. Nous avons besoin de recevoir l'huile sainte des 2 rameaux d'olivier, qui sont près des 2 tubes d'or d'où découle l'or. Nous avons besoin de comprendre l'œuvre menée dans le ciel. en cet antitype du jour du grand pardon, nous avons besoin d'être en parfaite harmonie avec l'œuvre qui est menée dans le ciel. Nous avons besoin de nous repentir et de confesser nos péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il est trop tard pour que nous nous reposions sur notre dignité. Certains, alors qu'ils pensent être parfaitement appropriés pour les autres de confesser leurs fautes, croient que leur position rend impossible la confession de leurs propres fautes. Mes frères, si vous souhaitez que vos péchés soient effacés par le sang du Christ, vous devez les confesser. Si vos frères connaissent vos erreurs, si par votre position votre influence s'est étendue, il est d'autant plus nécessaire que vous fassiez une confession totale. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Que nos péchés aillent d'abord en jugement, pour qu'ils puissent être effacés quand les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Battle Creek, mardi 13 janvier 1891. L.G. Wagoner est venu tard hier soir et nous avons eu une discussion concernant les assemblées pastorales qui se tiennent maintenant. Il s'est réjoui de ce que l'atmosphère régnant dans ces assemblées soit complètement différente de celle régnant à l'Institut pastoral l'année dernière. Que Dieu soit remercié pour ce témoignage. Oh, je prie constamment Dieu qu'il puisse y avoir un profond et sérieux travail de réforme, que la question des principes justes puisse être vue et reconnue et conservée comme sacrée. J'ai été informé que c'est là qu'il faut brandir le signal du danger, sinon le Seigneur ne coopérera pas avec son peuple. L'esprit doit s'humilier, le cœur doit être transformé. Pourquoi, en lisant leur Bible, ne comprennent-ils pas le « il est écrit » ? Les directives données si clairement dans Deutéronome sont une vérité sacrée. Elles doivent être érigées en principe dans tout notre service religieux envers Dieu et dans nos relations les uns avec les autres. Il est toujours sain d'être des chrétiens honorables, de s'aimer comme des frères, de ne pas commettre d'injustice et de faire preuve de générosité, tendresse, compassion et de véritable courtoisie. Dimanche, le pasteur Smith est venu me voir et nous avons eu une longue conversation. Cela m'a encouragé de voir qu'il n'était pas dressé contre moi, et je ne lui ai rien dissimulé quant à ma manière de voir sa position et quant à la façon dont il avait rendu mon travail si difficile. Il se sentait profondément concerné par ce sujet. Mardi, il m'a encore rendu visite et m'a demandé d'assister à une réunion qui devait réunir certaines personnes. Cette rencontre a eu lieu le mercredi. Le frère Smith a lu ce que je lui avais écrit et il s'est confessé avec franchise au professeur Bell, qui était présent, sur la manière dont il l'avait traité. Puis il a reparlé de Minneapolis et il s'est confessé. Il était tombé sur le roc et s'était brisé. Je ne peux pas vous décrire ma joie. Le frère Rupert s'est alors totalement confessé et ce fut réellement une rencontre très solennelle. J'ai su que le Seigneur était au milieu de nous. En nous séparant, le frère Smith a pris ma main et m'a dit « Sir White, me pardonnerez-vous pour tous les problèmes et la souffrance que je vous ai causés ? Je vous assure que c'est la dernière fois, si le Seigneur me pardonne. Je ne répéterai pas l'histoire de ces trois dernières années. Ô mon âme, bénis le Seigneur, bénis son saint nom. » Mon retour de Washington D.C. à Battle Creek a été assurément l'œuvre du Seigneur, et dès que je suis rentré à la maison, l'affliction a quitté mon cœur et n'est plus réapparue depuis. Il n'y a pas d'autre point sur lequel il faille s'arrêter plus sérieusement, qu'il faille répéter plus fréquemment ou établir plus fermement dans les esprits que l'impossibilité pour l'homme déchu de mériter quoi que ce soit grâce à ses bonnes œuvres. Le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Le Christ m'a donné ces paroles à dire. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc tous ceux qui comprennent correctement cette question devraient mettre de côté leur esprit rebelle et chercher le Seigneur de tout leur cœur. Alors ils trouveront le Christ et pourront donner un caractère distinctif à leur expérience religieuse. Ils devraient toujours présenter ce sujet, la simplicité de la véritable piété, de façon claire dans chaque discours. Cela entrera dans le cœur de chaque âme assoiffée et impatiente de trouver l'assurance de l'espérance, de la foi et de la parfaite confiance en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit clair et net, il n'est pas possible pour une créature de faire quoi que ce soit pour mériter sa position devant Dieu ou le don que Dieu lui a fait. Si la foi et les œuvres pouvaient acheter le don du salut, alors le Créateur serait l'obligé de la créature. Il y a là une possibilité que le mensonge soit accepté comme vérité. Si chaque homme peut mériter le salut par ce qu'il fait, alors il est dans la même position que les catholiques qui font pénitence pour leurs péchés. Le salut est alors partiellement une dette qui peut être gagnée comme un salaire. Si l'homme ne peut mériter le salut par aucune de ses bonnes œuvres, alors ce doit être entièrement par la grâce qu'il reçoit en tant que pécheur, parce qu'il accepte Jésus et croit en lui. C'est un don totalement gratuit. La justification par la foi se place au-delà de toute controverse. Et toute cette controverse prend fin dès qu'il est établi que les mérites de l'homme déchu ne pourront jamais lui procurer la vie éternelle par ses bonnes œuvres. Hier, Elegy Wagoner a fait un discours très percutant. J'ai entendu beaucoup de témoignages de ceux qui étaient présents et ils sont unanimes. Dieu a parlé à travers lui. Le frère Smith était présent et ils ont dit qu'il avait écouté attentivement. Dans l'après-midi, nous nous sommes réunis dans la chapelle des bureaux. Un grand nombre était présent. Les frères Olsen et Wagoner ont dirigé la réunion. Le Seigneur m'a donné un esprit de prière. La bénédiction de Dieu est venue sur moi et tous ont su que l'esprit et la puissance de Dieu étaient sur moi et beaucoup ont été grandement bénis. J'ai parlé avec gravité et détermination et beaucoup ont témoigné et certains se sont confessés, mais la rupture n'a pas été totale et nous n'avons pas eu la victoire totale que je désirais. Ce matin, nous nous sommes réunis dans la salle est du tabernacle. Il y a eu un certain nombre de prières ferventes et d'excellents témoignages. Puis j'ai de nouveau parlé. J'avais beaucoup de choses à dire et j'ai prononcé des paroles d'avertissement, de reproche et d'encouragement. Il y a une séparation. Nous avons maintenant des réunions qui se tiennent de 7h30 à 9h du matin pour la prière et une rencontre sociale. Les témoignages du frère Olsen se précisent. Nous croyons que nous verrons le salut de Dieu. Le frère et la sœur Prescott étaient présents ce matin. Je n'ai pas à me retenir maintenant. Je suis parfaitement libre, appelant la lumière, lumière, et l'obscurité, obscurité. Je leur ai dit hier que je croyais à la position des alliances telle qu'elle était présentée dans mon volume 1, Patriarche et prophète. Si c'était la position du docteur Wagoner, alors il avait la vérité. Nous espérons en Dieu. Ce fut la résistance la plus dure, la plus longue et la plus persistante que j'ai jamais connue. J'ai maintenant le projet bien établi d'écrire intégralement mon expérience dès que j'en aurai le temps, pour que ces événements soient rapportés tels qu'ils se sont produits. Dieu merci, la victoire est venue. Les pasteurs Butler et Smith sont des hommes qui, s'ils avaient été là où Dieu voulait qu'ils soient, se seraient tenus à mes côtés pour m'aider au lieu d'entraver le travail que le Seigneur m'avait confié. Ceux qui n'ont pas eu l'expérience et la lumière que ces hommes ont eue ne sont responsables que de la lumière que Dieu leur a donnée. J'ai parlé des réunions ici à Battle Creek depuis la conférence générale, disant que mon témoignage était resté sans effet. Wagoner a bien parlé. Je sais qu'une impression favorable a été laissée sur les esprits, et il n'y a pas eu de contestation ni d'esprit d'opposition. J'ai demandé « Comment avez-vous pu, frère Smith, me traiter comme vous l'avez fait? Comment avez-vous pu vous mettre directement en travers du chemin de l'œuvre de Dieu ?» Cela s'est finalement réduit à cela. Une lettre de Californie, adressée aux frères Butler, leur disant que des plans avaient été faits pour respecter la loi dans Galate. Ensuite, on a annoncé et expliqué qu'aucun plan n'avait été présenté. Vous pouvez imaginer comment ces explications ont dû paraître à ceux qui étaient présents. J'ai dit au frère Smith qu'il devait être le dernier à me barrer la route et à renforcer par son attitude les doutes et le scepticisme envers les témoignages. Il savait par de nombreux signes que mes témoignages n'avaient pas changé en caractère, en influence, depuis qu'il me connaissait. Il en savait plus que tout autre homme à leur sujet et sur la place qu'il devait tenir dans l'œuvre. Il était en relation avec mon mari et moi depuis sa jeunesse, et il était donc plus responsable que tout autre. Instructions sur la préparation intelligente de la nourriture. Les gens doivent apprendre à préparer de la nourriture saine. On doit leur montrer la nécessité d'écarter le thé, le café et la viande. Enseigner aux gens à préparer une nourriture à la fois saine et appétissante est un travail de la plus haute importance. L'éducation des ouvriers dans ce domaine devrait susciter le plus grand intérêt. Cette éducation est très en retard parce que ceux qui devraient être les premiers à la soutenir reculent, peu disposés à voir la réforme s'étendre. J'ai reçu l'instruction de dire aux éducateurs de la réforme sanitaire « Allez de l'avant ». Le monde a besoin de la moindre parcelle d'influence que vous pouvez exercer pour repousser la marée des déboires moraux. Que ceux qui croient à la vérité soient fidèles à leur couleur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tous ceux qui étudient la parole sont représentés comme mangeant la parole, se nourrissant du Christ. De même que les besoins corporels doivent être satisfaits quotidiennement, la parole de Dieu doit être étudiée quotidiennement, mangée, digérée et mise en pratique. Elle fournit la nourriture pour maintenir l'âme en bonne santé. Si la loi avait pu être abolie, le Christ n'aurait pas eu besoin de mourir, mais il est venu, le Fils unique, pour mourir et souffrir pour la famille humaine. Maintenant il dit, « Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. » Jean 14, versets 12, 13. Il est impossible à l'homme de changer l'institution du sabbat. Quand Dieu a posé les fondements de la terre, il a posé les fondements du sabbat. Il s'est reposé le sabbat, l'a sanctifié et l'a déclaré saint. Les hommes devaient l'observer comme un signe donné à 1000 générations, et d'ici là, nous serons dans la cité de Dieu. Cela vaut la peine d'y penser. Nous ne pouvons pas être sanctifiés par l'erreur. La Bible nous est ouverte. Où est votre fondement pour le dimanche ? Tous ceux qui observent véritablement le sabbat portent la marque de la loyauté à Dieu. Ils sont représentatifs de son royaume. Leur lumière doit briller pour les autres par de bonnes actions. Nous ne devons pas simplement observer le sabbat comme une question légale. Nous devons comprendre sa portée spirituelle sur tous les domaines de la vie. Dieu dit « Vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Exode 31, verset 13. C'est la sanctification par la vérité. Si nous sommes ainsi sanctifiés, nous n'aurons pas une foi infondée, une doctrine infondée, une expérience infondée. Nous avons besoin d'une foi véritable et d'une justice pratique. Le moi doit s'abaisser et le Christ doit être exalté. Avons-nous foi dans le sabbat ? Comment le montrons-nous ? Cherchons-nous de tout notre cœur cette grâce qui donnera à nos paroles et à nos actes une odeur de vie pour les autres. La foi sans les œuvres est morte, puisqu'elle est seule. Avons-nous livré notre âme à Jésus-Christ et avons-nous accepté ce dernier comme notre sauveur personnel ? Le véritable signe est placé sur toute personne qui accepte le sabbat pour le sanctifier pour le Seigneur. Si nous obéissons aux exigences du sabbat, nous serons sanctifiés, âme, corps et esprit. En sortant et en nous séparant du monde, en acceptant le sabbat de la création que Dieu a sanctifié et béni, nous témoignons d'une véritable conversion. Nous portons le signe de Dieu. Nous sommes estampillés avec la marque de son autorité. Le Père et le Fils se sont reposés après leur travail de création. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Genèse 2, versets 1 à 3. La mort du Christ avait été fixée au moment même où elle a eu lieu. C'était dans le plan de Dieu que l'œuvre que le Christ s'était engagé à faire se termine un vendredi et que le Christ se repose dans la tombe le sabbat, tout comme le Père et le Fils s'étaient reposés après avoir achevé leur œuvre créatrice. L'heure de la défaite apparente du Christ a été l'heure de sa victoire. Le grand plan, conçu avant que les fondements de la terre n'aient été établis, a été mené à bien avec succès.